Bienvenue à toutes et à tous dans Patara, le débat politique de Radio Ndeke Luka. Ravi de vous savoir très nombreux à l'écoute et pour la première fois en modulation de fréquence FM du côté de Baboua, Beloko, Cantonnier et même à Garamboulaye au Cameroun. Nous débattons aujourd'hui des rackets perpétrés sur les usagers de la route au Centrafrique, connue sous l'appellation de formalité. Cette pratique qui vise certains éléments des forces de l'ordre consiste à soutirer de l'argent des mains de passagers et propriétaires des véhicules. Selon le décret qui date de l'année 2012, fixant les barrières légales à travers tout le pays, la République centrafricaine doit officiellement disposer de 93 barrières, dont 7 sur le corridor Bangui-Garamboulaye, distant de plus de 610 km, principale voie de ravitaillement du pays. Le calvaire des usagers de la route est loin de connaître une fin. L'Assemblée nationale a même auditionné le gouvernement ce mercredi sur cette pratique de racket sur les barrières. Le Premier ministre Henri-Marie Dondra a rassuré les députés de la suppression dans un bref délai des barrières illégales dans tout le pays. Et pourtant, l'article 5 de la Constitution centrafricaine stipule que les libertés d'aller et venir sont garanties par les lois. Question à qui profite cette pratique qui écume les usagers de la route. Comment expliquer que les formalités se font tous les jours au vu et au su des autorités sans qu'aucune mesure ne soit prise afin d'y mettre fin? Le gouvernement arrivera-t-il à juguler cette pratique? Les éléments de force de l'ordre et de sécurité perçoivent-ils normalement leur prime globale d'alimentation PGA? Voilà tant d'interrogations qui enrichiront le débat du jour. Et pour en parler, je reçois Lazare Kianzi, bonjour.
Bonjour Armando.
Économiste rural et expert en développement rural et ancien leader des étudiants centrafricains de la faculté des sciences économiques, David Yannick Antida, bonjour.
Bonjour.
Coordinateur du réseau national pour la sauvegarde des acquis de la paix, une organisation qui soutient le pouvoir, et ancien secrétaire général du conseil national de la GNSNJ. Et Serge Bayombo, bonjour.
Bonjour Armando.
Porte-parole du président de l'URCA, Anissé Georges Doleguélé, chef de file de l'opposition, Armando Nguindi, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voilà, le débat politique de Radio Ndeke Luka. Nous allons faire le tour très rapidement de ce qui se passe sur le terrain et aussi d'écouter nos invités sur la question de l'heure. Quel est votre constat sur cette pratique de racket d'enfants, l'objet des usagers de la route ces derniers temps, Monsieur Bayombo?
Merci Armando de m'avoir invité à ce débat. C'est un débat que je dirais même capital, parce que cette question touche et secoue même toute la classe politique, que ce soit les couches sociales de la République centrafricaine. Aujourd'hui, le peuple centrafricain est pris en otage par rapport à certains de nos forces, ces éléments de nos forces, qui aujourd'hui ont érigé des barrières qui écument toute l'étendue du territoire national. Et ça pose problème parce que vous savez qu'il y a un décret qui était pris en 2012, instituant les barrières légalement sur le territoire national. Et ces barrières, je crois bien, ça devait osciller autour de 86 barrières légales. 93 barrières qui sont légalement instituées sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, on en compte des centaines de barrières. Et ce qui entrave réellement la liberté d'aller et de retour de certains de nos compatriotes, les citoyens lambda, et surtout les commerçants, ceux qui exercent des activités commerciales sur le corridor Bangui-Garamboulaye ou à l'intérieur même du pays, ça pose problème, et les conséquences sont là. Les conséquences sont sur le terrain, il y a hausse de prix sur le marché, la population se plaint, parce que aujourd'hui, pour traverser Bangui pour arriver à Garamboulaye, c'est vraiment un parcours de combattant et ça pose problème à Armando.
On y revient, monsieur David Yannick Candida. Qu'en dites-vous sur cette question de barrières illégales sur les voies en République centrafricaine?
Merci beaucoup Armando pour cette question pertinente. En tant que citoyen centrafricain, nous sommes tous gênés par ce genre de pratiques. Mais il faut noter qu'il y a de la bonne volonté de la part des autres autorités à pouvoir éradiquer ce phénomène. Parce qu'en tant que citoyen, le souci majeur est que les dignes fils et les dignes filles de ce pays puissent vaquer librement à leurs occupations, que nos enfants puissent aller à l'école, que nos mamans qui sont dans les activités, qui sont dans des petites activités génératrices de revenus, puissent les exercer de façon aisée, sans moins de tracasseries. Mais c'est un cri de cœur, je pense que c'est un souci partagé. Et nous pensons que, comme l'ont souligné les autorités légitimes, des mesures seront prises pour alléger la souffrance du peuple centrafricain.
Lazare Kianzi.
Oui, M. Armando, merci pour l'opportunité que vous nous accordez afin de débattre sur cette situation vraiment complexe, cette situation alarmante et déplorable que vit le citoyen centrafricain à ce jour. Je pense qu'aujourd'hui, tel que venaient de le dire les deux compatriotes, tous nous décrions la situation. En ce sens que le nombre de barrières exagère, le nombre, pour moi, le nombre, ça ne pose pas problème. Le nombre, même s'ils veulent mettre 10 000 barrières, ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui se passe sur ces barrières? C'est ce qui se passe sur ces barrières qui, vraiment, ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas le Centrafricain. Et le Centrafricain ne mérite pas de vivre de pareilles choses. Qu'est-ce qui se passe sur ces barrières? La situation, elle est alarmante. La situation, elle est déplorable. Et la liberté d'aller et de revenir n'est pas garantie. Au niveau de la circulation est entravée. Le Centrafricain ne peut pas vaquer librement à ses occupations à cause de ces multiples barrières qui, des pratiques vraiment néfastes, se font au niveau de ces barrières. Et ce sont ces pratiques que nous déplorons. Les barrières peuvent exister juste parce que, il y a des problèmes de sécurité, on peut même multiplier les barrières. Même à 100 mètres, on peut même mettre 10 barrières. Mais si ces 10 barrières font réellement le travail qui leur sont destinés, je pense qu'ils ne devraient pas avoir de problème. Mais c'est ce qui se passe au niveau de ces barrières-là. À 1 km, on met 4-5 barrières. C'est ce qui se passe au niveau de ces barrières qui est vraiment déplorable.
Mais si vous le disiez comme ça, je vous invite à suivre les réactions des victimes de raquettes d'informalité sur les barrières. Qu'est-ce qui se passe réellement sur les barrières? Vous allez les écouter et découvrir.
Les formalités sont devenues monnaie courante. Avant d'arriver sur le Pampoko, tu dois payer la formalité. Au PK26 aussi. Si tu comptes jusqu'à Garouamboulaï, on peut faire facilement 30 formalités sur les barrières à raison de 2000 francs CFA. Parfois, tu payes pour 3 postes sur place. La gendarmerie, la police et les FACA.
FACA, la gendarmerie.
C'est vrai, sur les barrières, la formalité existe encore. Ils contrôlent les pièces du véhicule et ils verbalisent sur les pièces mon compte avant de faire la formalité. On paye 5 000 francs à la gendarmerie pour les gros véhicules.
Ils te compliquent la vie pour rien. Et les bus n'ont pas de temps à t'attendre seul. Tu es obligé de payer la formalité, soit à 500 ou 1000 francs, avant de continuer ton chemin. Les papiers sont en règle, mais ils exige que tu verses l'argent. Le véhicule peut partir et te laisser. Ils font comme si nous sommes des étrangers chez nous.
Il y a trop de tracasseries sur cette route. Ils nous demandent de payer 1000 francs. Deux fois, ils augmentent à 1500 francs. Si ça les convient, ils peuvent encore augmenter les frais à 2000 francs CFA. Ce n'est pas du tout normal.
Au niveau de PK12 jusqu'à Bombaré, nombre de barrières, ça fait 21 barrières. Et puis à chaque fois, au niveau des barrières, même si les gens ont le papier, ils ont le dérangement. Je monte tout et tout. Et puis encore, deuxième des choses. Mais de toute façon, ce que moi je fais là, moi j'ai tout le papier de mon véhicule. Mais à cause du papier là, moi je ne connais pas même.
Voilà, vous vous posez la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe réellement sur les barrières? Et vous avez écouté les Centrafricains. Je vous remets la parole, Lazare Kianzi, sur cette question. Voilà exactement ce qui se passe sur les barrières. Les victimes se plaignent.
Les victimes se sont plaintes. J'ai circulé sur les barrières, en fait, à l'intérieur du pays, plusieurs fois en véhicule. Et en véhicule privé qu'en véhicule de commerce. Donc moi-même, j'ai expérimenté ces choses. Là, aujourd'hui, l'interview, vous avez vu, ils ont parlé de questions de véhicules, les formalités de véhicules, les formalités des personnes. Même si tu as ta carte, tu as tout ce qu'il faut pour qu'on puisse t'identifier, on te demande encore de payer 500. Quand tu dis, il dit non, Biatiko Datene, tout doit payer. Ça, c'est leur slogan. Hein. C'est pas ressorti, mais je dis. Quand vous arrivez, on vous dit non, Biatiko Datene, tout doit payer, donc il doit payer là.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tout le monde doit manger. Donc nous aussi, on doit manger. Il faut nous donner notre part. Mais comment votre part? Vous avez vos PGA, vous avez un salaire. Là, vous êtes là pour servir le pays. Vous êtes là pour faire un travail pour lequel vous vous êtes engagé. Corps et âme, vous avez même prêté serment pour le faire. Et vous devez le faire en tout temps et conscience, avec dignité et respect. Mais on se rend compte que c'est du n'importe quoi au niveau des barrières aujourd'hui. On vous demande l'argent, si vous n'avez pas l'argent, c'est facile pour vous de rester ici.
Soit on bloque le véhicule, soit toi, le passager, tu restes là, et le véhicule passe. Et il va falloir maintenant, si tu as déjà payé le véhicule part, t'abandonne parce que tu n'as pas, tu ne veux pas faire la formalité ou tu ne veux pas donner l'argent. Ça, c'est un autre problème. Mais encore en plus de ça, la question maintenant de la circulation des produits agricoles, ça, vous n'avez pas touché. Et ce n'est pas ressorti dans l'interview. Comment est-ce que tu prends l'arachide ici à Sibut pour amener vendre à Bangui? Tu arrives à Ngiringo, on te dit de faire la douane. Tu prends l'arachide à Pawa, tu amènes pour vendre à Bangui, tu arrives à PK26, on te dit de payer la douane. Tu prends un article, tu achètes à Bangui. Ça rentre dans le cadre de cette formalité-là. Quand tu quittes à Bangui, tu achètes le sucre, le savon, tu achètes les piles, tu amènes pour aller vendre à Sibut, même là à Damara. Tu traverses juste un peu, tu arrives sur les barrières, on te dit de faire la douane, on essaie de voir qu'est-ce que tu as dans le véhicule. La douane dit tu dois payer la douane. Mais ces articles ont été dédouanés à la frontière avant qu'on puisse amener. Ça n'a pas été fabriqué ici. Mais est-ce que les autorités ont ces informations? Et bon, qu'est-ce qui est fait pour que ces choses puissent s'arrêter?
Voilà, on y revient. Les gens souffrent, comme vous l'avez dit, on y revient par rapport à toutes ces questions. Je rappelle que le débat d'aujourd'hui, c'est avec les jeunes leaders centrafricains sur cette question des barrières illégales. Comment expliquer que les autorités, je voulais dire, les auteurs de ce phénomène pratiqué au vu et au su, surtout de tout le monde, ne soient pas inquiétés? Y a-t-il une complicité ou une mafia dans cette affaire, Andida?
Non, dire que, Arlando, que les autorités ne sont pas gênés par rapport à ces pratiques, je dirais faux. Parce que si vous vous souvenez très bien, lors de la cérémonie des policiers au niveau de le 25 août dernier, le président de la République a attiré l'attention des nouveaux policiers pour leur demander à faire preuve de professionnalisme. Parce qu'ils travaillent, ils sont au service de la population. Lui-même, il dit qu'il est informé de ce genre de pratiques. Et dans son discours du 25 août, dont je fais mention ici, il a même instruit son ministre de la Sécurité et le DG de la police à prendre des mesures qui s'imposent pour ces cas isolés. Donc pour moi, du côté de nos autorités, il y a de la bonne volonté pour que les choses avancent. Mais cela n'empêche qu'il y a des cas isolés. Vous savez, quand vous avez dans votre famille, dans votre propre famille, vous pouvez avoir 5 enfants, mais un enfant qui parfois présente des caprices que vous ne contrôlez pas. Mais en tant que beau père, c'est de le ramener à l'ordre. Et c'est ce que les autorités légitimes le font. La dernière fois, le Premier ministre a pris bonne note de l'observation des élus de la nation. Il a dit qu'il en est bien conscient. Parce que les activités que certains compatriotes mènent rapportent de l'argent dans la caisse de l'État. Mais ce qu'il faut noter, que sur les barrières, il y a plusieurs services. Nous avons sur les barrières, nous avons le service de la douane, nous avons le service des eaux et forêts, nous avons le service... il y a plusieurs services.
La gendarmerie,
etc.
Les FACA.
Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il faut que que les Centrafricains connaissent aussi leurs devoirs. Lorsque je m'engage à réaliser des activités génératrices de revenus, qu'est-ce que je dois à l'État? C'est la question que les gens oublient principalement. Ils se mettent dans la posture accusative. C'est que c'est l'État toujours qui a tort. Mais qu'en tant que citoyen, nous ne reconnaissons pas notre part de responsabilité. Et il y a cet aspect aussi. La part de responsabilité, c'est que le Centrafricain doit s'informer. Lorsque un citoyen veut s'engager dans des activités génératrices.
Et donc vous voulez répondre à Lazare Kianzi qui parlait tout à l'heure de ce que vous achetez des marchandises, voilà, ici à Bangui pour aller vendre à Ngiringu par exemple, on vous demande de faire la douane, c'est ça?
Oui, c'est ce que je voulais. Je suis un économiste, je pense qu'il a les bonnes informations mieux que moi. Quand vous engagez dans une activité, il y a des préalables. Et ça, avant que vous vous engagez.
Maintenant, si vous faites la dérogation, vous n'êtes pas en règle, et puis vous arrivez sur les barrières, l'argent que vous donnez, vous payez, on vous taxe là. Est-ce qu'on verse ça au trésor public?
Si vous avez bien suivi le Premier ministre, le Premier ministre a fait mention qu'en 2020, les ressources qui ont été collectées sur les barrières sont rentrées dans la caisse de l'État à la hauteur de 80 millions de francs CFA. Ça veut dire que lorsque on vous demande de payer une quittance, vous exigez un reçu. C'est ce que les gens font. Mais généralement, les Centrafricains, ils aiment la facilité. Au lieu de passer par la voie légale, exiger à ce que, lorsque vous n'êtes pas dans les normes, le rôle de nos forces de sécurité est non seulement de réprimer, mais d'éduquer aussi la population. La loi, c'est la loi. Lorsque vous atteignez un âge majeur, vous savez pertinemment qu'on vous déplace. Quand vous voulez faire des va-et-vient à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur, vous devez avoir vos papiers. Et ce n'est que dans ce pays qu'il y a des excuses. Allez sur d'autres cieux, même si vous arrivez dans d'autres pays, vous ne pouvez pas sortir hors de chez vous lorsque vous n'avez pas vos papiers en poche. Ce n'est pas possible. Mais nous dénonçons et nous rejoignons ceux qui
pense que bon, lorsque les gens ne sont pas dans la légalité, le rôle de nos officiers de police, c'est de les ramener à l'ordre, c'est de les éduquer.
Il y a un autre exemple qu'un député, lors de l'interpellation du gouvernement, mercredi dernier à l'Assemblée, a présenté. Nous savons que le service de la production de cartes d'identité nationale, c'est ici à Bangui. Les gens quittent Bois pour venir le faire ici. Depuis plus de 10 ans, les gens n'ont pas pu faire ce document, c'est ici à Bangui. Mais en venant, on leur demande de payer. Or, c'est ici qu'ils devaient avoir ces documents.
Nous sommes tous des centrafricains, soyons réalistes. Moi, que je vous parle, je suis citoyen centrafricain. Lorsque vous venez faire vos papiers, vous avez ce qu'on appelle la carte d'électeur qui vous permet de vous déplacer. Et ça, lorsque vous avez ces cartes d'électeur, vous n'êtes pas trop embrouillé. Ça, ça suffit. Il y a des centrafricains, lorsque vous avez la carte d'électeur, vous
venez pour des restes. Ça, c'est une affirmation gratuite. C'est le contraire.
Il faut se référer à la déclaration du président de l'ANE qui s'est plaint qu'effectivement, sur les barrières, les cartes d'électeur ont été brisées. Brisées.
Devant moi,
c'est force de
l'ordre. Comme vous le dites, moi, je n'en ai pas les preuves.
Oui, exactement. C'est parce que tu es sur place à Bangui.
Non, je ne suis pas.
Nous qui circulons, nous vivons ces choses.
Monsieur Moruba, on a parlé. Il a dit qu'effectivement, que sur les barrières, les Centrafricains se plaignent parce qu'on a cassé, on a brisé des cartes d'électeurs des Centrafricains. Et pourtant, c'est un document légal. C'est un document fait par les autorités, les institutions de la République.
Un exemple concret. À la barrière de sortie de Damara, quand je quittais Bangui pour me rendre à Bombari, à la barrière de sortie de Damara, les FACA et la garde présidentielle qui occupaient cette barrière ont demandé à ce que les gens puissent présenter les papiers. Les gens sont descendus dans le véhicule, d'autres n'ont que la carte d'électeur. Tous ceux qui ont la carte d'électeur, on les a mis de côté, on leur a demandé de payer 2000. Ceux qui ont les pièces, les passeports ou bien la carte d'identité nationale, ceux-là payent 500. Et parmi ceux qui ont la carte d'électeur, il y a d'autres qui n'ont pas les 2000 pour payer. Et il y a deux qui ont été tabassés devant moi, barrière de sortie
ça
de Damara.
C'est un avis. Moi, je n'en ai pas les preuves.
C'est un fait.
Non, je dis ce que vous
dites. Il a vécu.
Moi, je n'en ai pas les preuves. Il se peut que ça peut être un avis, qu'elle soit juste, mais un peu exagéré. Mais pour moi, je n'en ai pas les preuves. Ce que moi je dis, nous, ce n'est pas vous seuls qui vous circulez à l'intérieur du pays. Nous circulons également à l'intérieur du pays.
Ok, donc référez-vous aux réalités
du terrain. Nous circulons à l'intérieur du pays, nous avons le même sentiment.
Quelques secondes, on va écouter M. Bayombo. Vous avez suivi les Centrafricains qui se plaignent de ces formalités, communément appelées formalités, les raquettes sur les barrières. Votre réaction rapidement.
Armando, c'est l'exaspération, c'est le ras-le-bol de la population. On a suivi tout à l'heure comment les gens se plaignent de cette pratique néfaste qui entrave la liberté d'aller et venir de ces citoyens lambda ou de ces citoyens tout court. Mais pourquoi les autorités? Moi, j'ai suivi M. Ondida tout à l'heure le dire que le président de la République a dit lors de ses différents discours qu'il a pris ça à bras le corps, qu'il voudrait tout faire pour éradiquer ce phénomène. Mais il faut joindre l'acte à la parole, M. Armando. J'aurais même souhaité que le président de la République puisse donner l'ordre au ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité en cherchant à prendre ces brebis galeuses, en les renvoyant purement et simplement de leurs entités, leurs corps respectifs, pour que cela serve d'exemple, pour que ça puisse donner un effet, pour que les autres ne feront plus ce genre de pratiques. Malheureusement, ça ne se fait pas. On le dit seulement, mais il n'y a pas d'acte. Et c'est ça qu'on déplore. Les autorités le disent. Ils savent. Tout le monde est au courant. Même eux, quand ils empruntent ces routes, en partant, ils voient ces barrières. Mais pourquoi ils ne peuvent pas taper du poing sur la table en disant non, que cela ne se répète plus? Parce que le peuple en a marre. Et le rôle de l'État, c'est de protéger sa population. Malheureusement, c'est cet État-là qui voit sa population en train de souffrir, mais qui croise les bras et en disant seulement « Oui, je reconnais qu'il y a ça, mais malheureusement, il n'y a pas d'acte. » Et c'est ce que nous déplorons. Tous les Centrafricains déplorent ce genre de pratiques. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous avons, voyez-vous un peu, sur cette question, l'Assemblée nationale avait demandé à ce que le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Défense, puisse aller répondre devant l'Assemblée nationale sur cette question de ces barrières illégales. Malheureusement, le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Défense ont refusé de venir devant l'Assemblée nationale pour répondre de cette question très primordiale. Pourquoi? Ils savent pertinemment. Ils savent qu'ils seront contrés au niveau de l'Assemblée nationale. Et ils ne peuvent pas aller là-bas parce que ça sera une honte. Ils savent, ils ont des mains liées. Et ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret aujourd'hui que ces barrières, ces militaires, le rôle de l'armée, ce n'est pas de faire de contrôle. Le rôle de l'armée, ce n'est pas faire de contrôle. Ça, c'est dévolu au niveau de la gendarmerie et de la police. Malheureusement, l'armée nationale le fait au vu au-dessus de tout le monde. Mais pourquoi on n'en parle pas? C'est des brebis galeuses. Ou soit, c'est des chefs, je dis certains chefs de l'armée, qui savent et qui encouragent.
Il y a certaines questions là. Certains députés, lors de l'interpellation du gouvernement mercredi dernier, ont exprimé leur inquiétude sur le traitement des éléments des forces de l'ordre de sécurité. Selon eux, ils ne perçoivent pas bien normalement leur PGA, comme je le disais tantôt. Est-ce que cela peut pousser les éléments de la force publique à racketter les usagers?
Oui, mais avant de...
S'il vous plaît, prenons la parole un à un. D'abord,
Lazare. Non, je veux d'abord prendre le contre-pied de ce qu'il disait tout à l'heure. C'est vrai. C'est trop facile de dire qu'il faut le président de la République, s'il s'engage, ok, si on attrape la personne qui commet ces actes, il faut le radier. Mais on ne va pas le radier comme ça. Moi, maintenant, je m'inscris en défenseur de cette personne. Le gendarme qui est sur le terrain, qui aujourd'hui fait le racketage, est-ce que c'est de sa faute? Il est envoyé sur le terrain pendant combien de temps? Est-ce qu'il a reçu son PGA? Est-ce qu'il a reçu son salaire? Est-ce qu'on s'occupe de lui? Est-ce qu'on lui donne à manger?
Et c'est ça lui donne le droit?
Non,
ça lui donne le droit de racketter.
C'est un moyen de survie. Il est obligé.
Vous encouragez cela?
Je n'encourage pas, mais c'est un moyen de survivre. Il est obligé de faire ça pour survivre. Maintenant, là où vous devez frapper, c'est au niveau des autorités. Ils doivent prendre les responsabilités. Lorsque vous demandez à quelqu'un de bien travailler, mettez-le dans les conditions qu'il faut pour qu'il puisse bien faire son travail. Mais quand il est envoyé sur le terrain, il ne mange pas, on ne s'occupe pas de lui, il ne reçoit pas son PGA, son PGA est détourné autre. Et qu'est-ce qui lui reste? Il a son arme entre les mains. Ce qui lui reste, c'est de venir racketter et de se faire de l'argent pour survivre. Maintenant, là où il faut frapper, c'est au niveau de ces autorités ici, au niveau du ministère.
Ça vous l'avez déjà dit.
Est-ce que je peux apporter un avis?
J'ai pas encore fini, monsieur Andida.
Je donne la parole à monsieur Bayombo. Vous terminez rapidement. Vous donnez la parole à monsieur Andida tout à l'heure.
Je crois ici, on est en train de dire comme si on est en train d'officialiser ces raquettes.
Non.
On est en train d'officialiser cela. On encourage ce genre de pratiques. Moi, je dis non. Vous savez que ce décret datant de 2012, qui avait institué 93 barrières sur toute l'étendue du territoire national. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on est à combien de barrières? Un, c'est ça. Deux, je me rappelle, dans des régions...
Vous n'avez pas les chiffres, non? Les barrières inventées, vous n'avez pas de chiffres.
C'est des centaines.
Mais ça, c'est une estimation, vous n'avez pas de chiffres.
C'est des centaines.
Vous n'avez pas de chiffres.
J'ai pas eu l'occasion, de prendre la route, parce que même la route pour aller jusqu'à Birao, je vous dis que c'est difficile.
S'il vous plaît, nous savons que officiellement, comme a dit le Premier ministre, c'est 93 barrières. Mais est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, ça ne dépasse pas?
On nous dit qu'il y a des barrières supplémentaires. Il faut qu'on nous donne des chiffres.
Mais déjà, entre Bangui et Bambari, vous avez écouté un centrafricain.
Mais il y a le contexte a évolué. Le contexte sécuritaire a évolué. Il fallait que les autorités légitimes puissent prendre des mesures en fonction du contexte.
En prenant un nouveau décret, en mettant en place des nouvelles barrières. C'est des nouvelles barrières qu'on doit instituer légalement. On ne le fait pas comme ça. On ne se lève pas le matin et on le fait. Non.
Lorsque les hautes autorités prennent leurs responsabilités.
En quoi faisant?
Quand ils disent, ils s'engagent à mettre fin à ce
problème. C'est des actes, nous on veut des actes.
Non, il faut dépassionner le débat. Je ne veux pas mener un débat de passion. Non,
non, je dis pas.
Nous voulons avoir un débat. Non, le problème c'est que vous êtes passionné. C'est normal parce que, je vous dis, c'est normal. Mais nous voulons un débat structuré parce que nous parlons de la vie de la nation. Les autorités vous disent qu'ils sont informés. Qu'il y a des brebis galeuses qui sont dans des pratiques ou qui mènent des actes isolés, qui n'honorent pas la République. Ils ne sont pas informés. Ils s'engagent à résoudre
ce problème. Et à qui la faute?
C'est vrai,
ils doivent s'engager à faire leur travail. Alors,
vous savez, je voulais revenir sur les propos de mon frère de l'URCA. Lorsque un citoyen qui a des droits, qui pense qu'il est maltraité sur les barrières, donnez-moi l'exemple d'un citoyen qui s'est plaint de façon officielle, parce qu'il y a ce qu'on appelle on doit plaindre, c'est quoi? C'est pas seulement rester dans la rue sous les manguets et dire que on se plaint. Non, lorsque nous avons un intérêt à agir, c'est quoi l'intérêt à agir? Vous identifiez? Non, attends, non, je suis centrafricain. Moi j'ai des droits.
Finissez quelle question?
Je finis. L'intérêt à agir, c'est quoi? Lorsque moi je sais que j'identifie monsieur Lazare qui est gendarme sur la route, j'ai été racketté, je suis son victime, je viens, je porte plainte contre monsieur Lazare, et sa hiérarchie, il y a le tribunal militaire sa hiérarchie va se prononcer sur les actes isolés que ce gendarme a posé ou que ce policier a posé.
Monsieur Andy,
mais lorsque
Amadou, lorsque je peux finir,
je vous dis, lorsqu'un citoyen se plaint ne veut pas dire rester sous les manguets et dire que nous avons des problèmes, nous avons des soucis. Vous avez des soucis, vous identifiez les intéressés. Vous portez plainte. Lorsque vous portez plainte devant le tribunal militaire.
Monsieur Andida, vous l'avez déjà dit. On va écouter Monsieur Lazare sur ce point rapidement avant de donner la parole à Monsieur.
C'est trop facile ce que l'échappatoire que Monsieur Andida est en train de chercher à trouver. C'est trop facile. Il sait très bien combien de villageois savent écrire, combien de villageois savent se rendre quelque part pour porter plainte.
C'est pour combien cela de le personnes gouvernement a augmenté le budget de l'éducation nationale.
Non, calmez-vous.
C'est pour vous compléter.
C'est trop facile ce que vous dites. Soyons réalistes et soyons concrets. On est tous des Centrafricains. C'est vrai, si on peut défendre notre côté de part et d'autre, mais laissons ça de côté et parlons de la réalité. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, le Centrafricain qui est à Sibut, qui est à Bambari, qui est à Pawa, à Bossangwa et autres, et qui écoute ce que vous dites, mais s'il vous trouve quelque part, s'il vous connaît, il risque même de vous mordre avec ses dents. Parce que c'est qu'il a vécu au niveau des barrières. Et ce que les gens le font, ils sont en train de faire au niveau de ces barrières. Mais je vous assure, c'est horrible. Et ce n'est pas à travers ces genres d'arguments d'échappatoire que nous pouvons résoudre le problème.
On est dans un débat, aujourd'hui, vous avez terminé.
Oui, non, et aujourd'hui, il est question d'identifier le problème et de faire vraies propositions. Mais,
on écoute M. Boyombo, je vous donne une minute parce qu'on joue sur le temps. Vous avez quelques minutes
Amando,
à terminer.
Cet impédimenta, je vous assure, c'est dû à un manque de volonté de la part de nos autorités. Ça, je vous dis. Il y a un régime, lors de régime précédent, je ne cite pas, cette histoire avait lieu. Et rappelez-vous que l'histoire de ces barrières illégales ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça s'est accentué sous ce régime. Je me rappelle, en 2012-2013, cette histoire avait secoué toute la République. Mais les autorités de l'époque ont mis en place une commission hybride constituée des FACA, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des personnels de Haute-Forêt, en mettant en place une commission hybride pour aller démanteler toutes ces barrières sur toute l'étendue du territoire. Ça a marché. Mais pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui? C'est par manque de volonté. On en parle au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des plus hautes autorités. Malheureusement, il n'y a pas d'action. Ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas un débat où on doit seulement défendre sa bannière politique ou quelque chose. Je dis non. C'est un débat qui touche la population. Et nous parlons aujourd'hui au nom du peuple centrafricain qui souffre.
Monsieur Boyombo,
il faut qu'on en parle.
Monsieur Andida, je vous coupe et puis je vous invite très rapidement, une fois encore, à écouter le ministre de la Sécurité publique, Nikèze Nassin, qui a répondu aux plaignants de cette pratique de formalité communément appelée ici en Centrafrique.
À travers vous, je vais vous donner une réponse ferme. On ne peut pas ramener la sécurité dans un pays sans qu'il y ait un contrôle de sécurité. Vous savez, c'est sur les barrières qu'on doit maintenant tamiser l'aller et le retour de chaque citoyen qui semble être en règle. Et si on ne contrôle pas cela, partant de Bangui jusqu'à Garamoulaye, de Garamoulaye, et qu'on le retrouve ici à Bangui, ils vont s'évaporer. Il faudrait qu'on connaisse les statistiques des passagers qui partent de la frontière jusqu'à la capitale. Et arrivé à la capitale, il faudrait qu'il y ait des traces pour une prise en charge que je ne peux pas vous expliquer ici.
Voilà, c'était donc Nikèze Nassin, ministre de la Sécurité publique. C'est sur cette question que nous l'avions demandé, la plainte des Centrafricains concernant les formalités, soi-disant sur les barrières. L'argument selon lequel ces multiples barrières illégales permettent d'assurer la sécurité. Est-ce que réellement cela contribue à faire asseoir la quiétude? D'abord, Monsieur Andida.
Avant que je ne réponde à votre préoccupation, je voulais d'abord répondre à un souci partagé par mon frère de
très rapidement,
très rapidement,
on n'a pas le temps.
Lorsqu'il avance comme propos, qu'il y a un manque de volonté de la part de nos autorités. Je le dis le contraire. Lorsqu'un premier ministre de la République vous dit qu'il prendra des mesures urgentes pour éradiquer ce phénomène, c'est une volonté. Et donc je ne veux pas qu'on reste dans ce débat passionné. Maintenant, à répondre à votre question, le contexte sécuritaire n'est plus le même contexte sécuritaire de 2012, de 2013. Les choses ont changé. Lorsque les choses ont changé, il faut des mesures qui s'imposent.
Mais dans la légalité.
Je suis tout à fait d'accord
dans
avec
la
vous.
Légalité,
lorsque,
monsieur Andida.
Parce que lorsqu'un président qui doit veiller sur la sécurité de ses concitoyens et qu'il pense que la sécurité de ses concitoyens est menacée, il prend des mesures qui s'imposent. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Les mesures qui s'imposent, c'est en installant ces barrières.
Le problème est que c'est vrai qu'il y a, je le répète, qu'il y a eu des cas isolés qu'il faut remédier à cela. Et nous sommes tous bien conscients. Et dans un esprit de patriotisme, je partage le souci de ces compatriotes. Donc, le souci est pris en compte des mesures qui vont s'imposer pour permettre à ce que les Centrafricains puissent vaquer librement à leurs occupations. Mais tout en ayant à l'esprit l'idée pour amener la paix et assurer la sécurité de nos concitoyens.
Oui, sur cette réponse donnée par le ministre de la Sécurité publique, monsieur Lazare Kianzien.
Merci. Hier, j'avais suivi la réponse du ministre de la Sécurité publique sur les ondes de la radio. J'ai suivi en français, en sango, et j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. Et j'étais vexé, j'étais énervé même quand j'ai écouté ce qu'il a dit. Non seulement il n'a pas répondu aux plaintes que les Centrafricains, les citoyens... D'abord, lorsque vous avez fait votre micro-balade, ce que les gens ont dit, sa réponse d'abord, c'est hors sujet. Les gens se plaignent des raquettes et lui, il vient, il nous parle de la sécurité, il nous parle des contrôles de sécurité, il faut protéger le pays. Donc il faut protéger le pays, il faut raqueter les gens pour protéger le pays. Si on essaie de faire le lien entre les plaintes et sa réponse, ça veut dire que lui, il se met du côté que ok, c'est bon, il faut raqueter les gens pour protéger le pays. Les gens sont là pour protéger le pays. Ils n'ont qu'à protéger le pays avec les instructions qu'ils ont reçues, avec les orientations qu'ils ont reçues. Ce n'est pas en faisant les raquettes qu'ils vont protéger le pays. Ça, c'est deux choses différentes. Et les gens se plaignent parce que sur les barrières, il y a trop de raquettage. Et même aujourd'hui, quand tu achètes de l'eau ici à Bangui, à 500 francs, tu as le temps de quitter, par exemple, si tu prends l'unité, c'est à 500. Ça, c'est juste un exemple banal que je donne. Tu arrives ici jusqu'à Sibut, le nombre de barrières que tu traverses, que tu dois payer les formalités dessus jusqu'à arriver là-bas, tu es obligé de vendre ce que ici à Bangui, ça te voit 500. À Sibut, ici, qui a seulement 100 quelques kilomètres de Bangui, tu seras obligé de vendre ça à presque à tripler le prix. Juste parce que tu as payé assez de choses, assez de formalités en route. Et ça ne cadre pas. La réponse du ministre ne cadre pas avec les plaintes. Et je pense que le ministre a été hors sujet. Et il sait pourquoi il a refusé d'aller à l'Assemblée. C'est un fait exprès. Il sait que là-bas, il n'aura pas les mots. Il n'aura pas les arguments pour défendre. Et quand il n'a pas les arguments pour défendre, il reste tranquille dans son coin. Et maintenant, c'est quand les journalistes amènent le micro qu'il menace. Il a tenu des menaces que c'est la dernière fois qu'on parle de raquettes. Parce qu'il va... Mais il menace qui ? Nous sommes des Centrafricains, mais ils nous menacent, ils vont finir avec nous tous. Mais c'est des choses, on vit des choses au quotidien, notre quotidien est je ne sais pas vraiment, c'est compliqué. Et on se plaint parce qu'il est responsable de ce département, et lui, il est là, il se contente. D'abord, il refuse de répondre à l'interpellation des députés qui sont nos représentants et qui ont aussi ces plaintes et qui doivent lui exposer. Et maintenant, il reste là tranquille. Le Premier ministre est obligé d'aller faire le travail à sa place. Il reste là tranquille et maintenant, il nous menace encore sur les zones de la radio. Ça veut dire quoi ?
Oui, M. Boyombo.
Non, je ne dirais pas que c'est le ministre en personne, sa personnalité, qui est en déphasage de la réalité de ce que vit la population centrafricaine. Mais je dis plutôt que lui, en tant que ministre, il est en déphasage. Il est en déphasage de la situation sécuritaire et le problème des barrières, des plaintes de la population centrafricaine. Effectivement, si on a suivi le ministre de la Sécurité en disant que on doit tamiser sur les barrières, on doit tamiser jusqu'au niveau de Bangui et prendre en charge. Ça, c'est des termes, c'est sa fonction. Antérieur, il était directeur général, je crois, chargé de la documentation. Donc, il confond un peu ce qu'il faisait au niveau de la présidence à l'époque pour contrôler les va-et-vient de la population. Il confond un peu à son rôle de ministre de la sécurité. Exactement. C'est autre chose. Il contrôle aujourd'hui un secteur vaste qui est celui de protéger la population centrafricaine. Il doit le savoir. Il n'a de compte à rendre au Premier ministre et le Premier ministre rend compte à la population par le biais des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et il n'a pas à se soustraire de l'interpellation des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il sait...
On ne parle pas de l'interpellation aujourd'hui. Hein. Ouais, on parle de barrières et il a donné une réponse.
C'est pas un autre sujet, je le dis. Je le dis parce qu'il a été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à ces questions de barrières illégales. Et il savait qu'il n'avait pas d'argument à donner à ces députés.
Sur les barrières, voilà. Il y a des services.
Je finis rapidement. Oui, c'est pourquoi je dis. Aujourd'hui, vous voyez un peu, le Premier ministre, quand il était parti là-bas au niveau de l'Assemblée nationale pour répondre à nos élus de cette situation des barrières illégales. Mais vous voyez comment il a essayé de chercher par-ci, par-là des réponses pour donner. ils n'avaient pas réellement touché du doigt la réalité. Et pourtant, le ministre de la Sécurité était là. Le ministre de la Défense était là. Ceux-là qui étaient chargés. Là. Ils sont chargés pour la sécurité de notre pays. Malheureusement, ils ne disent rien.
Voilà, votre et c'est le Premier ministre
qui s'est battu. Qui s'est battu corps et âme pour donner des réponses, voilà, mais non satisfaisantes.
Vous l'avez déjà dit, oui.
Sur des barrières, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est pour veiller à la sécurité de nos concitoyens. Le deuxième niveau, il y a des services des différents ministères qui sont au niveau de nos barrières. Lorsque qu'un citoyen qui va au niveau de Damara ou de Boali, qui achète le charbon, quand vous arrivez au niveau de la barrière, on vous demande de payer des taxes au niveau du service des eaux et forêts. Lorsque vous allez à Garamboulaye, vous payez ce qu'on appelle la pré-liquidation. Vous arrivez au niveau de Garamboulaye, vous payez votre douane, vous faites le nécessaire. Au niveau de Beloko, c'est ce qu'on appelle la pré-liquidation. Vous payez là-bas, vous revenez sur des barrières. Est-ce que lorsqu'on observe que vos papiers sont en règle, on vous demande de passer par le bac. Donc, au niveau de ces barrières, il y a le service de la douane aussi qui vérifie est-ce que le travail que leurs confrères de Beloko ont fait en amont est correct. Donc, vous voyez, il y a tout ce mécanisme. Le souci partagé, je le dis.
Reviens au sujet.
Le souci partagé, nous savons qu'il y a des barrières illégales. Et nous savons qu'il y a des comportements isolés. Mais les hautes autorités ont pris des mesures nécessaires pour que.
Mais comment expliquer que sur le corridor, légalement, on devait avoir Bangui Beloko, ça fait plus de 600 kilomètres, mais on a déjà. C'est seulement cette barrière légale qu'on devait retrouver sur ce terrain, ou bien sur cette voie-là, mais aujourd'hui, ça dépasse le nombre légal de ce que l'État ou bien le gouvernement a institué. Est-ce que c'est par rapport à cette question d'insécurité? Est-ce que aussi le nombre de barrières aujourd'hui permet,
permet de résoudre le problème de sécurité sur l'étang du territoire national?
Oui, pour le nombre de barrières. Sur le plan sécuritaire, je vous dirais oui. Parce que lorsque.
Calmez-vous, monsieur.
Il y a des barrières à l'entrée et à la sortie de chaque ville. Lorsque vous quittez Bangui, pour aller. Lorsque vous arrivez à l'entrée de Boali, il y a une barrière ici.
Mais si vous comptez chaque ville, ça veut dire que ça dépasse les 7 sur le corridor. Chaque ville ici, ça dépasse plus d'une dizaine de villes. Si on en a que 2, ça fait déjà.
3, Armando. À l'entrée, à l'intérieur de la ville, à la sortie de la ville. 3 barrières par ville. 3, 4 barrières par ville.
Soyons raisonnables.
À l'entrée,
nous savons.
À l'intérieur et à la sortie.
Avec mon frère Lazare qui fait trop de problèmes, il sait qu'à l'entrée de chaque ville, il y a des barrières. À la sortie.
À l'entrée, à l'intérieur.
Calmez-vous, monsieur.
À la sortie, il y a des barrières. Pour les gens, le ministre, c'est pour tamiser des gens qui rentrent et des gens qui sortent.
Je disais tantôt que le Premier ministre a dit de Bangui Beloko, ça fait 7 barrières légales qu'on devrait retrouver sur cette voie-là. Mais aujourd'hui, si vous comptez les villes tout au long de Bangui et Beloko, on a plus d'une dizaine de villes. Est-ce que si on compte 2 par ville, ça peut pas dépasser ce que l'État a institué?
Et c'est pour cette raison qu'il a dit qu'il prendra des mesures qui s'imposent.
Monsieur Kianzé, sur cette question.
D'abord, lorsque le frère Ondid a dit que ces barrières résout le problème de sécurité, d'abord moi je dis non, je m'inscris en faux et je démontre. Lorsqu'un véhicule quitte Bangui pour aller à Beloko ou par exemple quitte Bangui pour aller à Bambari, si vous voulez par curiosité sortez au niveau des barrières, prenez votre moto et allez vous positionner, observez seulement ce qui se passe. Lorsque le véhicule arrive, d'abord les gens descendent pour faire les formalités, les passagers vont payer les 500 maintenant pour le véhicule. Lorsqu'on dit qu'on est là pour contrôler, c'est pour contrôler la circulation des armes, évidemment, lorsqu'on parle de la sécurité.
Il y a aussi sur les barrières, un député en a mentionné qu'il y a aussi un service de désarmement.
Il y a un service de désarmement, c'est pour contrôler et ressortir tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire du véhicule arrive, on dit, formalité de tel poste, tu donnes, après tu arrives, formalité de désarmement. Tu donnes l'argent, tu passes. On ne fouille même pas le véhicule, on ne contrôle rien dans le véhicule. Si tu viens, tu donnes les 2000 ou bien les 5000 par entité, arrivé au désarmement, c'est eux qui demandent beaucoup. Parce que si tu refuses, ils vont décharger ton véhicule. Donc, ils sont obligés de venir ici, on dit c'est 5000 de formalité, ici là tu ne discutes pas. Tu leur donnes les 5000, tu passes avec le véhicule. Et les armes continuent de circuler. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a ces barrières, c'est pour tamiser quoi?
Monsieur,
c'est pour tamiser.
Depuis...
Je suis en train de parler de la réalité, de ce que je vis, de ce que je vois et de ce que j'observe au quotidien. Et là, je vous dis que je reviens même de l'arrière-pays à peine 3 jours. et je vois des choses, j'observe des choses.
Quelques secondes.
Donc, lorsqu'on institue les barrières, lorsqu'on multiplie les barrières, on dit que c'est pour garantir la sécurité, il faut qu'au niveau de ces barrières, les gens puissent faire normalement leur travail, qu'ils puissent contrôler. Et ceux qui n'ont pas de papier, par exemple, quand vous descendez dans le véhicule, il suffit juste que tu as ton argent, mais si tu n'as pas de papier, tu payes, tu passes. Tu payes, tu passes, même si tu n'as pas de papier. Tu as ton argent, tu donnes, tu passes. Mais c'est ça tamiser ? Est-ce que ça résout le problème ?
Donc, du coup,
dire que. On multiplie ces barrières pour résoudre ce problème, je m'inscris en faux.
Je donne la parole à vous, Serge Guayomo. Je rappelle que vous êtes porte-parole du président de l'URCA, et c'est Georges Deleguille dans ce débat. C'est l'équipe des jeunes sur cette question des barrières. Et rapidement, vous voulez réagir tout à l'heure pour qu'on puisse évoluer.
Oui, le Premier ministre a dit au courant de cette semaine, jusqu'à la fin de ce mois, on doit y avoir une solution sur cette question-là. Ouais, ouais. Donc on attend voir le Premier ministre d'une manière concrète, à l'œuvre, pour chercher à démanteler ces barrières illégales. Nonobstant ce qu'a dit le ministre de la Sécurité, qui voulait tamiser, bon, c'est pas trop, mais le Premier ministre dit qu'il donnera une réponse adéquate à cette question d'ici la fin de ce mois. On verra qu'est-ce qui sera dit concrètement pour alléger la souffrance du peuple central.
Nous savons que l'Union européenne a financé un projet de plus de 5 milliards de francs CFA pour le relèvement de l'économie nationale à travers la construction des barrières modernes et légales dans le pays. Pour en savoir davantage, retrouvez Igor Descansinapaï.
Cette première barrière moderne construite en partenariat avec l'Union européenne précède les 8 autres prévues sur le corridor Bangui-Béloko. Les agents des finances, les eaux et forêts et la sécurité publique sont des fonctionnaires habilités à servir sur cette barrière, chacun étant dans son service. Henri-Marie Dondra, ministre des Finances.
Nous avons un grand déficit en ce qui concerne la mobilisation des recettes fiscales et je pense que ça va contribuer à une meilleure mobilisation des recettes.
Avec la réhabilitation de cette barrière, certains checkpoints non retenus dans le projet comme PK12 situés en plein centre urbain doivent disparaître. Samuela Isopi, ambassadrice de l'Union européenne.
Réhabiliter les 9 barrières de contrôle que le gouvernement a prévues par décret, c'est aussi mettre en exergue le fait que les autres barrières non réhabilitées ne sont pas légales. Désormais, il sera aisé de faire la différence entre une barrière officielle dont la présence se justifie par le contrôle nécessaire des trafics et les barrières illicites qui entravent la libre circulation des personnes, impose des taxes illégales en détournant des ressources destinées au budget de l'État et constitue donc une violation de la loi et de l'accord politique de paix et de réconciliation.
Le maire de Bégoa, Jean-Emmanuel Gazanguinza, se félicite de cette réalisation qui permettra, selon lui, le développement de sa localité.
Au nom de la population de la commune de Bégoa que j'ai l'honneur de représenter, je suis très fier et cette barrière va éradiquer tous les maux qui gangrènent l'économie de notre pays.
La construction de ces 9 barrières légales sur le tronçon Boar-Béloko s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Un projet pour promouvoir aussi la bonne gouvernance dans la gestion des fonds publics.
Igor Jaskansinapa, je rappelle que c'est un vieux sujet. Hein. Vous avez compris que dans ce dossier, le Premier ministre actuel ministre était encore ministre des Finances, que cette question a été déjà posée pour qu'on puisse éradiquer ces barrières illégales. Je vous remets la parole sur cette question, M. Bayombo.
Oui, on a suivi l'ancien ministre des Finances, qui est aujourd'hui ministre, Premier ministre chef du gouvernement, M. Henri-Marie Dondra, parler sur cette question. Quand il était encore ministre des Finances, il a déjà relevé et soulevé ce problème. Parce que lui, il se plaignait un peu de la mobilisation de l'asset fiscal, qui, du moins par rapport à ces barrières, avait réduit sensiblement les recettes de l'État face à ces raquettes. Et donc, aujourd'hui, Premier ministre, il a encore retrouvé ce même problème. Ce même problème s'est ressurgi, étant Premier ministre, puisqu'aujourd'hui, nous faisons face à un sérieux problème de finances publiques. Et donc, le Premier ministre a compris, il a dit qu'il prendrait des mesures adéquates et des mesures draconiennes pour que cela soit éradiqué. Bon, nous comptons sur le Premier ministre, il a parlé. Mais il ne faut pas que ça soit encore mis encore dans le tiroir, comme l'a fait bon nombre de nos autorités ici, on en connaît. Hein. Qui, après avoir parlé devant l'Assemblée nationale, devant les élus du peuple centrafricain, quelques temps plus tard, ils remettent dans leur tiroir et on n'en parle plus, silence radio. Non, nous voulions des actes, des actes concrets, que le Premier ministre donne vraiment un signal fort et des sanctions pour les brebis galeuses. Et ça va servir de leçon et ça va servir de manière de dissuasion pour les autres qui auront l'idée d'ériger encore des barrières pour racketter la population. Donc, nous croyons que d'ici peu, comme l'a dit le Premier ministre, oui, que cela se fasse.
Mais Lazare, sur cette question, ça a daté. Hein, les autorités, comme on a dit, elles ont pris conscience de cette situation. Et même les partenaires au développement, à l'occurrence l'Union européenne, qui a financé la construction des barrières modernes et légales sur ce corridor Bangui-Beloko, mais cela persiste encore.
Moi, je ne suis pas convaincu de la déclaration du Premier ministre. Et je m'explique.
Non, mais là, il n'était pas encore Premier ministre.
Non,
c'est un ancien dossier.
Je fais le lien entre aujourd'hui et non seulement aujourd'hui, ce qu'on vient de suivre, et aussi de son engagement au niveau des élus de la nation. Lorsqu'il dit qu'il va mettre en place une brigade mobile pour résoudre ce problème, je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de payer les PGA. La solution, c'est de payer que tous ceux qui sont au niveau de ces barrières, avant de les déployer, qu'on puisse les recycler, qu'on puisse leur essayer de retravailler encore sur eux, de leur montrer exactement leur mission, ce qu'ils vont faire. Et en plus de ça, il faut que leur PGA arrive sur le terrain à temps et dans sa totalité. Les PGA, c'est combien et combien arrive sur le terrain?
On dit souvent que l'argent ne suffit pas. Est-ce que faut-il mettre en place un contrôle régulier?
Ce contrôle, est-ce que vous pensez que ce contrôle va se faire ici jusqu'à Berbi, jusqu'à Birao? Ce contrôle se fera ici jusqu'aux extrémités ou au niveau de toutes les frontières? Je ne pense pas. Même si on met en place la brigade va arriver ici, va partir. Après cette brigade, les choses peuvent continuer. Donc du coup, je pense qu'il faut réfléchir. En plus de cette proposition, il faut réfléchir encore au-delà de tout ça.
Mais lorsque vous avez parlé de PGA, vous avez répété plusieurs fois cette question de PGA. Est-ce que réellement sur le terrain, les forces de l'ordre qui sont déployées n'ont pas perçu leur prime d'alimentation globale?
Moi, je partage le quotidien avec eux. Étant sur le terrain, partout où je travaille, je partage le quotidien avec ces éléments de force de défense. Et on se rend compte de la réalité. Que c'est pourquoi tout à l'heure, lorsque le collègue de l'URC disait qu'il faut peut-être aller sanctionner ou bien radier ces personnes de l'armée, moi j'ai dit non, parce que j'ai échangé avec certains et je comprends. C'est vrai que c'est pas tolérable, c'est vrai que c'est pas normal, mais à un moment donné, je les comprends, parce que c'est la seule chose qui leur reste. Soit ils utilisent l'arme qu'on leur a donnée pour aller braquer et se faire et trouver à manger, ou bien. Mais comment ils vont faire pour vivre? Donc, du coup, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le Premier ministre doit faire des propositions, aller au-delà de mettre en place une brigade. Mais il faut d'abord mettre les gens dans les conditions qu'il faut, dans les meilleures conditions optimales de travail. Et maintenant, la brigade fait son travail. Je pense que les deux, lorsqu'on essaie de joindre ces deux propositions, on peut réussir à remédier à cette situation.
Oui, à vous la parole, David Yannick Andida. Je rappelle que vous soutenez les actions du pouvoir, vous êtes dans votre organisation. Sur cette question de barrières, et vous avez écouté le Premier ministre, quand il était encore ministre des Finances, sur la question des barrières légales qui devraient exister sur le corridor Bangui-Beloko, mais aussi sur d'autres voies.
Il faut hiérarchiser les urgences. Les urgences de l'heure, c'est de démanteler les barrières qui sont illégales. Et ça, c'est la première des urgences. Et les hautes autorités de la République ont pris à bras le corps ce dossier. C'est vrai, et je suis tout à fait d'accord à certains compatriotes qui émettent des doutes sur la volonté de nos autorités. Mais laissons-le à l'œuvre. Parce que à plusieurs reprises, quand le président de la République a l'occasion de parler à nos forces de défense et de sécurité, il leur demande de copier de bons exemples. Mais il faut avoir aussi à l'esprit des gendarmes et des policiers qui font convenablement leur travail au-delà des conditions difficiles qu'ils sont. Ça, c'est cet aspect aussi, nous l'avons oublié à des gendarmes aussi. C'est vrai, notre pays vient de très loin. Nous avons une tension de la trésorerie. Les autorités se battent pour avoir un minimum, pour mettre nos forces de défense et de sécurité dans des conditions minimales pour assurer la sécurité de nos paisibles populations. Pour moi, de façon hiérarchisée, il faut commencer d'abord par la volonté de nos autorités à démanteler ces barrières illégales. Mais en allant, ça c'est la première. Mais maintenant, sur la question de la mise en place d'une brigade, c'est une préoccupation. Ça, c'est une réponse appropriée. Lorsque vous démantelez quelque chose, il se peut que lorsque vous démantelez, à votre retour, les gens remettent encore les barrières. Mais c'est le rôle que jouera cette brigade. Lorsqu'on va démanteler, cette brigade-là fera son travail. Et au fur et à mesure, nos forces de défense et de sécurité, parce que sur chaque barrière, il y a des ministères sectoriels. Nous avons plusieurs départements, comme l'a mentionné l'ancien ministre des Finances dans son interview. Il faut renforcer la capacité de ces agents qui sont sur ces barrières pour permettre à ce qu'ils font preuve de professionnalisme et d'humanisme. D'humanisme parce que le cri de cœur de la paix des populations, il faut que le cri de cœur de la population soit entendu.
Mais avant de clore cette discussion démocratique d'aujourd'hui, écoutons le Premier ministre Henri-Marie Dondra, interpellé par les députés mercredi dernier à l'Assemblée nationale sur les barrières illégales. Voici ses réponses.
Notamment ce qui concerne les barrières illégales ou bien les perceptions illégales venant des forces de défense et de sécurité. Vous avez fait des propositions en disant qu'il faudrait penser à mettre en place soit une brigade ou un système de contrôle, ou bien que le premier lui-même aille faire ce qu'on appelle des opérations coup de poing à cet effet. Vous écoutant tout à l'heure, j'ai consulté le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur pour justement essayer de mettre très rapidement en place un programme, une brigade éventuellement, qui pourrait déjà commencer à réfléchir par rapport à la faisabilité de l'action qui pourrait être menée afin d'éradiquer ces barrières illégales. Je pense que les instructions vont être données pour que cela puisse se faire très très rapidement.
Vous avez déjà résumé ce que le Premier ministre a dit, Andida, sur cette question.
Puisque nous sommes en communion d'esprit.
Ah bon,
en tout cas,
vous l'avez déjà écouté.
Mais moi non. Je disais tantôt qu'il faut hiérarchiser les urgences. L'urgence, premièrement, c'est de démanteler les barrières. On mettra en place une brigade. On renforcera la capacité de ces agents qui ont habilité à être sur ces barrières. Et ça, le gouvernement a la volonté de le faire. Et comme l'a dit mon frère Serge, qu'il veut des actions concrètes. Mais le concret, c'est vrai que l'autre quand Lazare était leader du jeune, il disait qu'au-delà de la rhétorique, il n'y a que des actes concrets qui font de nous des hommes crédibles. Mmh. Le Premier ministre a pris un engagement. C'est le souci partagé du président de la République. Laissez-leur le temps de répondre à cette préoccupation.
Le parce temps, que c'est on jusqu'à, gère quand, jusqu'à quand
on ne gère pas une république comme on gère une petite association. C'est une république. Mmh. Il faut un certain nombre.
Mais cette question touche la république.
C'est normal, mais cette question touche la république. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mmh. Mais pour répondre à ça, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut réunir. Il y a l'aspect de la logique qu'il faut mettre en place. Cette brigade, comment elle va fonctionner? C'est cette question qu'il faut également se poser. Il faut que cette brigade soit en mesure d'aller jusqu'à Abia. Il faut que cette brigade soit en mesure d'aller jusqu'à Délé et au
ça fonctionne. Ça fonctionnait. Donc, cette expérience.
Vous avez parlé, monsieur Andida. On écoute Lazare qui en sait sur cette question.
J'ai pas parlé, je crois.
Vous aurez la parole. Merci, Armando. Vous savez, moi, je travaille pour le développement. C'est pourquoi moi je propose.
Vous êtes dans les ONG, vous ne prenez pas les.
Je travaille pas pour une ONG, je travaille pour le développement. Je travaille pour une agence, je travaille pour le développement. C'est pourquoi les solutions d'urgence ne sont pas parfois les solutions qu'il faut. Nous proposons des solutions, une solution pérenne, une solution durable. C'est pourquoi il faut une solution qui peut résister pendant des années. C'est lorsque vous parlez aujourd'hui, vous émettez même des doutes sur le fonctionnement de cette brigade, comment ça va fonctionner. Ça veut dire que c'est une solution d'urgence que vous voulez apporter, mais cette solution d'urgence, exactement, c'est pourquoi je parle de la reste, pour que l'État puisse bien jouer son rôle en payant les paiements. Moi, je parle d'une solution pérenne, à long terme. Maintenant, revenons sur
quelques secondes
sur la volonté. C'est vrai. Merci de rappeler que il y a une nette différence entre la théorie et la pratique. L'engagement du Premier ministre ne pourra que nous convaincre lorsque nous allons commencer à voir les actes concrets, lorsque nous allons commencer à voir un changement. C'est facile de venir baratiner avec un beau français de baratiner parce que mais lorsque vous êtes face aux élus de la nation. Et que vous avez des tonnes de questions qui tombent sur vous et que vous voulez partir, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez les propositions et vous pour sauver votre peau. Mais maintenant, nous, en tant que citoyens qui suivons ces débats, qui suivons ces choses de loin, nous ne pouvons qu'être convaincus ou ne pouvons que dire « Ah, voilà, il y a un changement ». C'est lorsque nous allons voir que maintenant, nous, sur les barrières, on ne va plus nous racketter. Lorsque nous allons rendre compte que nous allons circuler librement de Bangui jusqu'à la frontière là-bas, Birao,
Sido.
Ou bien à Sido, ou bien à Kabo, ou vers Pawa, tout ça, c'est lorsqu'on va circuler librement qu'on va se rendre compte que Voilà ce que le Premier ministre avait dit. Il a mis en application et les choses ont changé.
Voilà, vous avez terminé. Serge Bayombo, je vous donne une minute sur cette question. Vous avez écouté le Premier ministre. Est-ce que cela vous a convaincu par rapport à la solution qui sera mise en place pour éradiquer et bannir surtout les barrières illégales sur les corridors ou les voies en République centrafricaine de transport?
Oui, Armando, au-delà du discours du Premier ministre que nous avons écouté ici, moi je voudrais souhaiter que nous allons encore plus loin. Nous allons plus loin. Que nous donnions des garanties, des gages qui puissent rassurer la population. Aujourd'hui, le Premier ministre a parlé, mais ces barrières n'ont pas cessé d'exister. Ça continue actuellement. Là, on entend de parler actuellement sur les voies. Nos compatriotes souffrent, sont en train de donner de l'argent. Actuellement, on est en train de parler là. Les gens sont en train de donner de l'argent à ces...
On veut une solution pérenne, mon cher.
Ces solutions pérennes, je vous assure, c'est des solutions définitives. Des solutions
Il ne faut pas confondre urgence et précipitation.
Non, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion, mais malheureusement, il ne faut pas aller en pas de tortue pour que tout le monde meure d'abord. Pour qu'on n'arrive pas comme les pompiers qui arrivent avant que les choses ne brûlent et ils arrivent après. Il faut que le Premier ministre soit sur place. Dès qu'il y a problème, il est là. Il résout directement. Comme un pompier où il y a la maison qui brûle, il arrive, il éteint le feu. C'est ce que nous voulons du Premier ministre. Il n'y a pas de précipitation en cela. Et donc, voilà, c'est pourquoi je crois que le Premier ministre, les députés, il a déjà parlé devant les députés. Nous, on va voir, on attend, on verra, dans un laps de temps, pour qu'il y ait vraiment éradication de ces barrières.
Monsieur, pour que la population monsieur, c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui.
Merci à tous.
Je rappelle que nous parlons des raquettes sur les barrières que subissent les centrafricains, les usagers de la route. Merci à vous, Serge Bayombo, porte-parole du président de l'URCA, M. Georges Delegué, le chef de file de l'opposition.
Merci Armando, merci Andida, merci aussi Lazare Kiyonzi.
Merci à David Yannick Andida, coordinateur du réseau national pour la sauvegarde des acquis de la paix, une organisation qui soutient le pouvoir et ancien secrétaire général du Conseil national de la jeunesse.
Merci beaucoup.
Merci à vous aussi, Lazare Kiyonzi.
Merci aussi à nos auditeurs.
Vous êtes économiste de formation et aussi économiste rural pour le développement rural, ancien leader des étudiants de la faculté des sciences économiques de l'université de Bangui. À la partie technique, c'était donc le service de Anne-Alex Pounemati. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.